en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
1905, aujourd'hui, c'est la dernière problématique que nous vous proposons sur Canal Academy dans le cadre de cette journée spéciale consacrée donc à la loi séparant les églises et l'État, loi dont nous fêtons le centenaire en 2005. Nous vous proposons d'écouter à présent la communication de Philippe Le Carpentier, ancien chef du bureau central des cultes, une communication intitulée « Le rôle du bureau central des cultes dans la gestion de la laïcité au quotidien ».
Quand M. André Damien m'a proposé en septembre 1994 d'assurer les fonctions de chef du bureau central des cultes, j'ignorais même jusqu'à l'existence de cette structure. J'y suis resté cette année, qui resteront sans doute parmi les plus enrichissantes et les plus intéressantes de ma carrière. Ce bureau de dimension aujourd'hui modeste, puis qui ne comprend que 7 ou 8 agents, est l'héritier de la prestigieuse Direction générale des cultes, rattachée successivement au ministère de la Justice, puis plus longtemps au ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des cultes. Elle comprenait 3 sous-directions divisées en 7 bureaux. On y préparait là, entre autres, la nomination des évêques, comme on prépare maintenant un mouvement préfectoral. On y gérait la carrière, les affectations, la rémunération et les pensions de retraite des ministres des 4 cultes reconnus. On y construisait, réparait, affectait les établissements publics du culte propriétaires des édifices du culte, mais aussi les presbytères, les salles de catéchisme, les séminaires qui tous participaient au service public des cultes. Rappelons brièvement qu'aujourd'hui encore, comme vous le savez, dans les 3 départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, le bureau des cultes de Strasbourg remplit toujours de telles fonctions puisque le régime introduit par la loi du 9 décembre 1905 ne s'y applique pas. La Direction générale des cultes survécut, si j'ose dire, pour les besoins de sa liquidation jusqu'au 17 août 1911, le temps d'assurer le versement des dernières pensions de retraite des ministres des cultes et de veiller au respect des règles légales de dévolution des biens des établissements publics du culte dissous en faveur des associations cultuelles ou des collectivités publiques. Je me suis permis, et vous me le pardonnerez, je l'espère, de modifier légèrement l'intitulé de la prestation qui m'a échu et qui était limitée au seul respect de la laïcité. Il m'a paru en effet impossible, et c'est ainsi que j'entendais le contenu de mes fonctions, comme j'imagine d'ailleurs aussi mes successeurs, de ne pas évoquer le second des fondements sur lequel repose l'édifice de la loi de 1905, je veux dire la garantie du libre exercice du culte, et d'ailleurs de tous les cultes, quels qu'ils soient. Ces 2 principes, respect de la laïcité et garantie du libre exercice des cultes, issus des 2 premiers articles de la loi de 1905, dont certains constitutionnalistes considèrent d'ailleurs, sans que le Conseil constitutionnel ait jamais eu à se prononcer, qu'ils ont valeur constitutionnelle, constituent l'originalité de notre système français. Ils sont non seulement le socle de notre régime cultuel, mais aussi l'un des principes fondamentaux de notre démocratie républicaine. Je vais donc traiter le rôle du Bureau central des cultes dans un premier point relativement au libre exercice des cultes et fort logiquement dans un second en quoi il participe à la garantie de la laïcité. Pour que les cultes s'exercent librement, il est nécessaire que 3 éléments soient réunis, des institutions, des moyens financiers et des édifices. Les institutions, le rôle du Bureau des cultes est essentiel en ce domaine. C'est lui qui, conformément aux dispositions du titre 3 de la loi du 1er juillet 1901, instruit le dossier de demande de reconnaissance légale des congrégations. C'est en effet que le système français offre la particularité de prévoir et d'organiser 2 catégories de groupements religieux, les congrégations et les associations cultuelles, dont le Conseil d'État a d'ailleurs estimé qu'il n'appartenait pas aux groupements concernés de choisir à leur guise la forme juridique à adopter. Des premières, il n'y a aucune définition, car le président Waldeck-Rousseau n'en voulait pas, estimant que le sens commun suffirait et qu'en cas de litige, le juge trancherait. Ce qu'a d'ailleurs fait déjà la Cour de cassation, lorsqu'existait le délit de reconstitution illégale de congrégation, de même que l'a fait le Conseil d'État dans 2 avis qu'il a donnés au ministre de l'Intérieur. Mais je m'arrête là sur les congrégations, car je ne voudrais pas empiéter sur les compétences du père Durand. Disons seulement que le dossier de reconnaissance légale est instruit par le Bureau des cultes, après souvent une préparation minutieuse avec les autorités religieuses et le collationnement de nombreuses pièces qui doivent être réunies. Le projet de décret est ensuite soumis pour avis conforme au Conseil d'État, puis transmis au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur pour signature. Il existe aujourd'hui environ 500 congrégations reconnues, dont 3 protestantes, 10 bouddhistes, 6 orthodoxes et 1 hindouiste. le reste étant constitué évidemment de congrégations catholiques. En 2004, le Bureau central des cultes a procédé à l'examen de 10 dossiers de reconnaissance légale, 12 modifications de statut et 3 abrogations. La qualité de congrégation a été âprement discutée, puis finalement refusée, en faveur de groupements religieux minoritaires que le langage courant qualifie à tort ou à raison de mouvements sectaires. Les juridictions administratives saisies du litige ont d'ailleurs confirmé toute la position de l'administration, mais pas forcément pour les moyens qu'elle avait soulevés. En revanche, s'agissant des associations cultuelles, aucune activité réglementaire directe n'est mise en œuvre par le Bureau des cultes. Le régime curieux des associations cultuelles ne leur impose aucune autre formalité que celle de la déclaration prévue pour les associations selon le régime général du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Leur reconnaissance, entre guillemets, par les pouvoirs publics, n'intervenant qu'à l'occasion de leur autorisation donnée pour recevoir des libéralités ou de la délivrance de l'exonération fiscale consentie en faveur de leurs bienfaiteurs. La question s'est souvent posée de savoir comment interpréter les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur les associations cultuelles. Le Conseil d'État a eu à de nombreuses reprises l'occasion de définir, mais strictement, l'objet des dites associations cultuelles, en particulier à l'occasion des demandes d'autorisation de libéralité ou d'exonération fiscale. C'est ainsi que s'est posée la question à propos du groupement dit des mouvements des témoins de Jéhovah, à travers les exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties et d'attaques d'habitation sur les édifices du culte. Finalement, la qualité d'association cultuelle leur a été reconnue en 2000. Brièvement résumé, je ne m'étendrai pas, les conditions pour qu'une association cultuelle puisse revendiquer cette qualité sont au nombre de 3. Un objet cultuel, une activité exclusivement cultuelle et enfin le respect de l'ordre public. Les moyens financiers, il s'agit là, sans être médisant, d'un aspect essentiel des choses nécessaires au fonctionnement des institutions et à la subsistance des ministres et auxiliaires du culte, car comme disait Molière, pour être dévot, on n'en est pas moins homme. Je viens d'en évoquer partiellement le régime, puisqu'en fait, les 3 critères constitutifs de la liberté du culte sont liés. Dans ce domaine, le Bureau des cultes intervient peu, d'autant que le régime organisé par le décret du 2 avril 2002, accroissant encore la déconcentration, l'a progressivement dessaisie au profit des préfets de département. Pour simplifier, disons seulement que conformément aux dispositions de la loi du 4 février 1901, la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités consenties aux associations cultuelles et aux congrégations doivent être autorisées par décret en Conseil d'État lorsque les héritiers du sang ont formé opposition. Et vous imaginez aisément à ce moment les pleurs et les grincements de dents et les tractations déchirant les familles. J'ai encore en mémoire la déception profonde de l'association cultuelle de l'Église apostolique arménienne de Paris, à qui le Bureau central des cultes avait dû refuser, un vrai déchirement, un legs de 2 ou 3 millions de francs, au motif que ses statuts, qui avaient notamment pour but, de promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne, ne lui permettaient pas d'être regardé comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Par suite, l'association, à qui n'avait pas été conférée à la date de promulgation de ces statuts la reconnaissance d'utilité publique et qui ne pouvait donc être considérée comme une association cultuelle, n'avait pas capacité pour recevoir des legs. Cette position a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'État dans un arrêt du 29 octobre 1990 aux conclusions de Mme Larocque. De même, pendant des années, sur instruction émanant des autorités gouvernementales, toutes tendances politiques confondues au fil des alternances électorales, le Bureau des cultes a bloqué les libéralités consenties au profit du mouvement issu de la dissidence menée par Mgr Lefebvre, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Cette décision avait été prise initialement sur les pressantes instances de l'Église catholique à la suite de l'occupation de l'Église Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est seulement en 2000, à la suite de la condamnation de l'État par le tribunal administratif de Paris, que le ministre de l'Intérieur de l'époque décida, face à la fragilité juridique de l'argumentation de l'administration et aussi au risque d'avoir à verser des intérêts d'un montant très élevé, de lever l'interdiction posée par ses prédécesseurs. Une centaine de dons et legs étaient alors en cause. Enfin, j'en arrive aux édifices du culte. Dans l'esprit du législateur de 1905 et conformément à la pratique cultuelle qui prévalait alors en Europe, les édifices du culte constituaient le pivot même de l'exercice public du culte. Il n'est que de voir le luxe de précaution, en dépit des critiques injustes dont la loi de 1905 a fait l'objet de la part des catholiques, mais pas de tous d'ailleurs, pour constater à quel point le législateur avait entendu protéger la pratique religieuse des fidèles et la garantir contre les empiétements des autorités et les perturbations du public, adeptes ou non. La jurisprudence d'alors reflète d'ailleurs cet état de choses en conférant au clergé affectataire, en communion avec son évêque, selon une conception héritée de la terminologie catholique, une autorité unique et indiscutable, mais uniquement en ce qui concerne l'exercice public du culte, dans les édifices appartenant aux personnes publiques, c'est-à-dire ceux qui, le 9 décembre 1905, étaient affectés à l'exercice public du culte. Le bureau des cultes est très fréquemment interrogé par les autorités religieuses et les élus locaux sur les conflits portant sur l'utilisation et l'entretien des édifices du culte, guerre picrocoline, mais qui empoisonne durablement les rapports entre les deux parties et remonte parfois jusqu'aux responsables des deux camps qui ont le plus grand mal à calmer le jeu. Le bureau central des cultes n'est pas peu fier d'avoir contribué dans deux lieux hautement symboliques par son arbitrage à ramener la paix. L'un concerne la basilique Saint-Denis, où l'établissement qui s'appelait alors la Caisse nationale des monuments historiques et la direction du patrimoine s'affrontait avec le clergé affectataire, car la basilique est à la fois un musée et un édifice du culte. L'autre a trait à l'église Sainte-Foy de Conques, dont le maire voulait récupérer le trésor, géré depuis le XIXe siècle par des religieux, mais qui était en grande partie constitué d'objets de culte, dont l'article 13 et de la loi de 1905 et la jurisprudence ont affirmé qu'il suivait le sort de l'édifice du culte, sauf des affectations, qui, le 9 décembre 1905, les renfermait. La jurisprudence est par conséquent extrêmement protectrice des édifices du culte. Dans un arrêt « Association internationale pour la conscience de Krishna » du 14 mai 1982, le Conseil d'État a estimé que le préfet de police ne pouvait fermer totalement un immeuble où le culte de Krishna se célébrait, même pour des raisons tirées du respect des règles d'hygiène et de sécurité, sans porter atteinte au libre exercice d'un culte. C'est aussi pourquoi le Bureau des cultes, sur instruction des pouvoirs publics, a recommandé par plusieurs circulaires aux maires de faciliter la délivrance des permis de construire aux associations musulmanes qui souhaitaient édifier des mosquées pour la pratique religieuse de leurs fidèles. On le voit donc, avec les institutions et les moyens financiers, peut-être plus encore, l'édifice du culte est la condition indispensable, la manifestation même de l'exercice d'un culte, et le législateur en était si conscient que pour éviter de priver les fidèles catholiques dans le contexte conflictuel que l'on sait, des édifices indispensables à leur pratique cultuelle, il vota le 2 janvier 1907 une loi concernant l'exercice public du culte qui garantit aux fidèles la jouissance gratuite des édifices de leur culte, même sans association cultuelle, même sans qu'aucune association fût déclarée, puisqu'à cette occasion, la liberté de réunion fut consacrée sans qu'aucune déclaration préalable fût désormais exigée. J'en arrive au principe de laïcité, le second appel de mon intervention, qui a d'ailleurs, je crois, été abondamment évoqué hier. Je ne pense pas que le Bureau central des cultes ait été autant sollicité pour faire assurer le respect de ce principe qu'il l'ait été pour garantir le libre exercice des cultes. Sans doute faut-il y voir là, même si de temps à autre certains conflits réveillent brutalement une fièvre que l'on croyait retombée, les effets d'un siècle d'application de la loi du 9 décembre 1905 et ce qu'il faut bien appeler une certaine indifférence de nos contemporains devant des dogmes et des manifestations religieuses qui avaient suscité en leur temps des controverses passionnées. Bien que cette distinction ne soit pas tout à fait appropriée, me semble-t-il, en ce qui concerne la laïcité, qui n'est pas susceptible de degré et ne fait que s'infléchir là où l'on croit l'adopter, comme on disait des jésuites autrefois lors de l'expulsion d'Europe. Sit und sunt aut non sint, je vais tenter une approche des activités du Bureau des cultes sans que l'on place dans une perspective rigoureuse ou au contraire, une perspective plus souple de la laïcité. La perspective rigoureuse, encore qu'il faille lancer le propos, était celle prévue par la loi de 1905 qui organisait une grande étanchéité entre les cultes et les pouvoirs publics. Les édifices du culte étaient remis aux associations cultuelles, mais l'entretien et la conservation leur incombaient. Et les associations cultuelles n'avaient pas la possibilité de recevoir de libéralité. L'application de ce principe au bureau des cultes s'est manifestée naturellement, comme dans tout service administratif, par des études et des réponses à des questions posées par différents intervenants dans des domaines extrêmement divers, concernant le plus souvent l'exercice de la fonction publique, tant il est vrai que c'est dans les activités de service public que les manifestations extérieures des convictions religieuses apparaissent le plus sensibles et suscitent des crispations entre les agents publics et les usagers. Je vais vous citer en vrac, donc, un certain échantillonnage des cas que le Bureau des cultes avait eu à examiner. Ainsi, on m'avait posé la question de savoir si un magistrat judiciaire pouvait, au terme de sa disponibilité pour accéder à la prêtrise, être réintégré dans ses fonctions antérieures. C'était un peu l'application de la célèbre jurisprudence Abbé Boutère du début du XXe siècle, mais en sens inverse, puisqu'en l'espèce, ce magistrat était déjà titulaire avant de devenir ministre des cultes. Autre cas, l'élève d'un crêpes qui présente les épreuves du CAPES sportif peut-il s'abstenir de manger et même de boire lorsque ses entraînements se situent durant une période de jeûne rituel? Une autre question était très fréquemment posée par les membres du corps préfectoral qui concernait les cas où ils pouvaient ou non revêtir leur tenue officielle lorsqu'ils assistaient à des cérémonies dans des édifices du culte. Aux Antilles aussi, la question s'est posée de savoir si un crucifix apposé dans la salle d'audience d'un tribunal l'avait été avant ou après le 9 décembre 1905. Puisque, comme vous le savez, la prohibition des emblèmes religieux sur les édifices publics ne valait que pour l'avenir. Mais beaucoup plus fréquemment, le bureau était interrogé pour savoir si une subvention versée par une personne publique, non à un organisme religieux, mais à ses instances culturelles, sociales, éducatives ou scolaires, constituait ou non une subvention prohibée, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence administrative. Un autre cas auquel le Bureau central des cultes a été associé avait soulevé une polémique d'ampleur nationale, dans la mesure où l'événement avait une portée hautement symbolique. Je veux parler ici du voyage du pape à Reims en 1996 pour célébrer le 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Le conseil municipal de Reims avait décidé de verser une subvention pour l'organisation et l'aménagement de la tribune et de l'estrade sur lesquelles devait être célébrée la messe papale. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération litigieuse au motif qu'elle contrevenait au principe de laïcité. La ville de Reims avait vainement fait valoir que le pape était aussi un chef d'État, je dis vainement, dès lors que la manifestation en cause concernait l'exercice d'une activité religieuse et non celle d'une activité politique ou administrative. Ces exemples montrent à quel point les activités sociales et religieuses peuvent être profondément mêlées, rendant malaisés l'effort des pouvoirs publics pour les dénouer en restituant à Dieu et à César ce qui leur revient en propre. Puisqu'il faut trancher ces nœuds gordiens, c'est donc assez souvent en faveur d'une application souple de la laïcité que les pouvoirs publics font application des textes législatifs et réglementaires. J'en viens donc pour terminer à la perspective libérale. D'une certaine manière, sous la pression des institutions religieuses et de leurs adeptes, elle a conduit à apporter des infléchissements à une stricte laïcité. Je vais tenter là encore d'illustrer mon propos à l'aide d'un certain nombre d'exemples à l'élaboration ou à la solution desquelles le bureau avait participé plus ou moins directement. La loi de 1905 elle-même a prévu à son article 2, deuxième alinéa, une exception capitale, à savoir les aumôneries, dont elle prévoyait elle-même l'existence dans un certain nombre d'établissements publics, non limitatifs d'ailleurs, et la faculté de rémunérer les aumôniers. La jurisprudence du Conseil d'État a précisé dans un arrêt d'assemblée 1949, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, les conditions d'exercice d'une aumônerie qui sont en fait réservées aux usagers d'un service public retenus dans cet endroit contre leur volonté. Les services religieux peuvent se tenir dans l'établissement pourvu que leurs manifestations ne troublent pas les convictions des adeptes des autres cultes ou de ceux qui n'en ont aucun. Le Bureau central des cultes a été associé au règlement d'une affaire dont le tribunal administratif de Paris a été saisi en 96-97 concernant la chapelle du lycée Montaigne, qui, en raison de sa date de construction, antérieure à 1905, était située à l'intérieur de l'établissement scolaire. S'agissant des édifices du culte, il existe de nombreuses dérogations, certaines légales, d'autres plus douteuses. Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi de 1905 concernant les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices du culte dont les personnes publiques sont propriétaires, mais aussi le dernier alinéa de l'article 19, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 25 avril 1942 concernant les dépenses nécessaires aux réparations des édifices du culte appartenant à des associations. Il faut citer encore l'article 11 de la loi de finances du 29 juillet 1961 qui autorise l'État, les départements et les communes à garantir les emprunts contractés pour la construction d'édifices du culte dans des agglomérations nouvelles. Il existe une pratique sur la légalité de laquelle pèsent des incertitudes et qui a été initiée en faveur de l'Église catholique dans les années 20 à Paris sous la dénomination des chantiers du cardinal, à savoir l'attribution gratuite par baux emphytéotiques du terrain d'assiette par la commune à qui il doit faire retour dans un délai assez long, ainsi que l'édifice du culte qui y aura été construit. Cette pratique, depuis, a été étendue à d'autres cultes, et notamment pour la construction de la Grande Mosquée de Lyon. Mais le juge, pourtant saisi à plusieurs reprises de la légalité du permis de construire, a prudemment évité de se prononcer. Le Bureau central des cultes a maintes et maintes fois été interrogé sur ces points par les élus locaux. Je ne terminerai pas sans mentionner les interminables querelles qui opposent très fréquemment le clergé affectataire et, d'une part, l'État en la personne du ministre de la Culture, et d'autre part, les maires en ce qui concerne les utilisations culturelles, concerts, pièces de théâtre, expositions, j'ose à peine le dire, voire même restaurants, dans des édifices du culte, et où le plus ardent défenseur de l'exercice du culte n'est pas toujours, comme on pourrait le penser, le clergé affectataire. Si le dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 a prévu la gratuité de la visite des édifices du culte et des objets mobiliers classés, sans que puisse être perçue taxe ou redevance, un arrêt de section du Conseil d'État de 1994 à Béchalumet a estimé qu'il convenait toutefois, s'agissant des objets mobiliers classés appartenant aux collectivités locales, que leur visite pouvait être payante, car ces dispositions doivent être combinées avec celle de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Il existe enfin une pratique religieuse très ancienne sur la qualification strictement cultuelle, de laquelle on peut s'interroger. Je veux parler de l'abattage rituel des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. Cet usage, issu essentiellement des prescriptions du Lévitique, est aujourd'hui pratiqué par les Israélites et les musulmans, mais il ne faut pas oublier qu'il l'a été également par les chrétiens, à la suite du Concile de Jérusalem de 49, où l'arbitrage de Pierre en faveur de Paul, apôtre des gentils, et au détriment de Jacques, évêque entre guillemets de Jérusalem, et chef de file des judéo-chrétiens, eurent pour conséquence d'ouvrir le christianisme aux non-juifs, mais en contrepartie Pierre leur avait imposé l'usage des interdits rituels. Ceux-ci ont, semble-t-il, perduré jusqu'au IVe ou Ve siècle, puisque saint Augustin en évoque encore la pratique sporadique. Toujours est-il que par dérogation aux dispositions prévues par le Code rural sur l'étourdissement des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine avant leur mise à mort, les Israélites l'année durant et les musulmans, essentiellement pour la fête de l'Aïd el-Kébir, sont autorisés à abattre ces animaux sans étourdissement et conformément à leurs prescriptions rituelles. Non seulement cet abattage est difficile à organiser en raison de la disparition progressive de la plupart des abattoirs dans les États membres de l'Union européenne, mais encore, ils mettent en cause souvent l'ordre public, l'hygiène alimentaire, songez aux problèmes lors de l'épidémie de vache folle, les conditions sanitaires, le droit du travail en ce qui concerne le personnel des abattoirs, mais encore, ils suscitent, du fait des prélèvements opérés lors de la vente aux particuliers, un certain nombre de convoitises financières qui ont opposé des groupements rivaux à l'intérieur d'un même culte, accusés de négliger les prescriptions rituelles indispensables au profit du seul commerce, tandis que les pouvoirs publics étaient sommés de trancher entre eux, voire même sollicités d'arbitrer des querelles religieuses. S'agissant des Israélites, la contestation du monopole accordé par les pouvoirs publics à l'Association consistoriale israélite de Paris, par une association pugnace dénommée Shaare Shalom Vetzedek, s'est poursuivie, selon un parcours exemplaire, si j'ose dire, devant les juridictions administratives, Théâtre Paris, CA de Paris, Conseil d'État, puis Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, où le gouvernement français l'a emporté d'extrême justesse, tant l'interprétation que cette juridiction fait de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme diffère des conceptions françaises de la laïcité. Toujours est-il que le Bureau central des cultes s'est depuis fort longtemps fortement investi dans ces questions, à un point tel que, dans l'atmosphère fébrile qui précédait la célébration de l'Aïd el-Kébir, le directeur général de l'administration du ministère de l'Intérieur à l'époque m'avait dit excédé : « Mais enfin, monsieur, vous n'êtes pas le chef du bureau de la viande ». Sans doute pourrait-on continuer encore longtemps cette énumération qui prouve, si besoin en était, qu'une étanchéité parfaite, à supposer d'ailleurs qu'elle ait été voulue par le législateur. Rappelons ainsi le pragmatisme d'Aristide Briand, qui était rapporteur du projet de loi de 1905. En supposant donc que cette étanchéité puisse s'appliquer facilement, les nécessités des hommes, l'action du temps et la nature des choses ont obligé les partis en présence à composer et à adopter des compromis. Que l'on songe ainsi à la pérennité de l'accord que le gouvernement français donne toujours à la nomination des évêques issus de l'aide-mémoire Gaspari, qui constituait le préalable mis par la France au rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican, privilège qui se trouve contraire à l'un des canons adoptés lors du Concile Vatican II. Que dire du régime de spécificité de sécurité sociale dont bénéficient les ministres du culte et les membres des congrégations? Et enfin, n'y avait-il pas, quels que soient les immenses mérites de l'entreprise des ministres de l'Intérieur successifs, qui s'est finalement avéré un succès à vouloir organiser des instances représentatives du culte musulman, n'y avait-il pas une certaine audace à agir de la sorte dans un régime de séparation? En conclusion, je voudrais, pour terminer, me livrer à un vibrant plaidoyer en faveur du bureau des cultes. Cette petite structure administrative a acquis au fil du temps, à travers les personnalités de ses chefs de bureau successifs, toutes différentes, mais toutes également attachées au respect de la laïcité et du libre exercice du culte, un rayonnement et une influence allant largement au-delà de son pouvoir nominal. Il n'est que de voir la confiance et l'estime que lui ont témoigné les multiples intervenants qui l'ont constamment saisi. Ministres et cabinets ministériels, à commencer par le premier d'entre eux, administrations centrales diverses, juridictions, services déconcentrés, élus locaux, universitaires, membres et autorités des différents cultes, personnalités étrangères. Il n'est que de constater l'importance des courriers qu'ils traitent, le nombre de mails et de télécopies adressées, les appels téléphoniques reçus, plus d'un millier, paraît-il, l'an dernier, pour constater que sa mémoire, sa compétence, sa neutralité bienveillante et la richesse de sa documentation toute numérisée aujourd'hui, y compris de la jurisprudence tant en matière administrative que judiciaire depuis 70 ans, tout cela en a fait un arbitre incontesté, un interlocuteur apprécié et un point de passage obligé, y compris même lorsque, ne sachant comment orienter des visiteurs atypiques au ministère de l'Intérieur, les services en désespoir de cause les renvoyaient au bureau des cultes. Je voudrais, si vous me le permettez, terminer par deux anecdotes. J'ai vu arriver un jour à l'improviste dans mon bureau un groupe mentalévi arrivant de Turquie. Ils étaient fort urbains et parlaient correctement le français. Toutefois, un peu étonné, au bout d'un moment, alors qu'ils m'affirmaient haut et fort qu'ils n'avaient aucun caractère religieux, je les ai interrogés sur leur raison de leur visite. Ils m'ont avoué qu'ils n'en savaient rien, mais que, perdus dans le dédale du ministère de l'Intérieur, on leur avait dit que seul le bureau des cultes pouvait les entendre. Et une autre fois, avait débarqué en grand arroi et en grand habit une escouade de religieuses polonaises. Je ne sais plus en quel sabir, je leur ai finalement demandé les raisons de leur visite. Elles m'ont avoué alors en rougissant qu'elles avaient parié avec leur sœur qu'elles forceraient les portes du ministère de l'Intérieur et du bureau des cultes. Bureau des cultes que je ne savais pas si populaire sur les bords de la Vistule.